fait commencer l'apéro.
Bonjour Arlette Laguiller.
Bon, ce samedi soir, ça y est, pour moi c'est le grand soir.
C'est le grand samedi soir.
C'est le grand samedi soir, d'accord.
Le grand soir tombe un samedi sur France Inter, sachez-le. Vous l'aurez entendu ici en premier.
Charlie Vaninacker. Bistroscopie sur France Inter.
Moi aussi, j'ai travaillé vos dossiers, Arlette Laguiller. Hein. J'ai revu plein de choses sur vous. Notamment ce compte en Suisse. Faudra qu'on en parle quand même.
Compte en Suisse, il n'y en a pas.
Oh là là, au Panama?
Non plus.
Oh là 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 là. Ce yacht alors, Arlette Laguiller.
Il n'y en a pas. Oh là là. Pas de chance avec moi.
Votre carrière dans une banque, entrée au Crédit Lyonnais à 16 ans. Leaduse du parti Lutte Ouvrière, première femme candidate à la présidentielle, vous vous êtes présentée 6 fois. Vous êtes une icône de la lutte des classes. Vous êtes devenue une icône. Ça, c'est sur la pop culture.
Une icône, je ne sais pas, mais c'est toujours mes idées.
Je sais, je vous le dis. Et cette fameuse entame de discours travailleur-travailleuse, si vous deviez faire un nouveau discours de campagne aujourd'hui, Arlette Laguiller, qu'est-ce qui changerait? Vous commenceriez par télétravailleur, télétravailleuse?
Je commencerais de toute façon, comme avant, par travailleuse.
Ah, voilà, c'est ça. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi auto-entrepreneuse, auto-entrepreneur.
Ça, c'est un terme à la mode, ouais.
À la mode, oui, mais...
Mais beaucoup d'auto-entrepreneuses et entrepreneurs ne vivent pas mieux que des travailleuses et des travailleurs, de toute façon.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est pas aujourd'hui là le gros contingent, finalement, du prolétariat, ces auto-entrepreneurs, entre guillemets, qui sont ubérisés sur des plateformes?
Vous savez, on raconte beaucoup de bêtises sur le fait que, soi-disant, le prolétariat n'existerait plus. Enfin, j'observe que actuellement, toutes les grandes enseignes de mode sont en train de licencier des centaines de travailleurs, et surtout des travailleuses, d'ailleurs, souvent dans le commerce. Donc, oui, on estime à peu près à 5 millions les ouvriers aujourd'hui. C'est beaucoup, déjà. Et puis en plus, comme ils sont regroupés, ils sont une force. C'est pas chacun pour soi. On se réunit entre travailleurs du même atelier. Cette force des travailleurs, elle s'exprime dans tous les pays en réalité. On nous dit en France, vous faites toujours grève. J'observe en ce moment qu'en Angleterre, il y a des grèves partout, qu'en Allemagne, il y a des grèves, que... Vous comprenez, les travailleurs, ils fabriquent tout dans la société. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils la dirigent, cette société.
Alors, ils fabriquent, mais aujourd'hui, ils rendent des services. C'est ce qu'on disait, c'est la nouvelle forme aussi que prend cette... On peut toujours dire classe ouvrière si on veut, mais elle a pris des nouvelles formes, ce prolétariat, elle a pris des nouvelles formes. Les livreurs à vélo, par exemple, ils fabriquent pas, mais...
Oui, bien sûr, mais vous savez, ils font grève aussi. Ils se considèrent aussi comme...
Mais vous les incluez.
Exploités. Bien sûr qu'on les inclut. Comme toutes celles qui soignent les gens âgés à domicile, comme toutes celles qui sont dans les EHPAD.
Les services, donc, aussi.
Donc, ces gens-là font partie de la classe ouvrière intégralement. Et ils ont les mêmes soucis que des ouvriers d'usine, en réalité.
Ouais. Vous avez été candidate 6 fois à l'élection présidentielle. Vous avez un mindset de winneuse, Arlette Laguiller. Parce que vous n'êtes jamais découragée. Je parle en start-up, c'est la mode. Et la première fois... Vous vous déclarez à l'élection présidentielle alors que vous êtes gréviste et que vous occupez les locaux du Crédit Lyonnais. Ça s'est passé comment?
Alors, ça s'est passé que nous avons appris... Alors, il faut dire qu'on était vers la fin de la grève, qu'on le sentait, mais on a appris la mort de Georges Pompidou. Et du coup... On s'était dit, bon, en 69, on a soutenu Alain Krivine qui s'était présenté. Eh ben, cette fois-ci, on va y aller nous aussi. Et
Alain Krivine, c'était la LCR,
69.
C'est ça, voilà. Ouais. Qui est devenue NPA aujourd'hui.
Oui, alors, on peut reparler du NPA.
Oh, on va en reparler, vous
comme
avez
il est coupé en trois, je ne sais plus trop de qui on parle maintenant. Mais, oui, voilà. Et ça s'est passé simplement. On s'est réunis au niveau de la direction de Lutte Ouvrière, dont je faisais déjà partie depuis 1968. Il y avait eu une autre grève d'ailleurs assez importante même au Crédit Lyonnais, et on a discuté de possibilités de se présenter. Donc il y avait moi, il y avait une autre camarade qui travaillait dans la chimie, et un camarade ouvrier.
Ah, et deux femmes, un homme.
Alors, et finalement, on a choisi Arlette.
Ah ouais. Mais qui a eu cette idée et pourquoi est-ce que c'est au sein du parti trotskiste Lutte Ouvrière qui a eu cette idée de « Tiens, Pompidou est mort, on va présenter une femme ». Qui a eu cette idée au départ ?
Je crois qu'on... On mettait vraiment beaucoup d'énergie, nous, à Lutte Ouvrière, à faire que les femmes occupent les mêmes responsabilités que les hommes. Donc j'ai l'impression que ça s'est fait presque naturellement. Mm-hmm. Alors peut-être au détriment de mon camarade ouvrier. Mais voilà, ça a été unanime, quoi. Mm-hmm. Mais je crois qu'on avait cette particularité, déjà à ce moment-là, d'essayer d'appliquer dans notre petite organisation l'égalité homme-femme. C'est-à-dire les femmes, c'était pas celles qui servaient le café à la fin de la réunion, c'était celles qui causaient, qui écrivaient les tracts comme les hommes. Voilà. En 74, on était seulement 6 ans après 1968. Alors 1968, c'est encore plus vieux pour vous qui êtes jeunes, mais 1968, c'est un peu la revanche des femmes quand même. Hein. C'est toutes les luttes pour la liberté de l'avortement, toute cette période. Et la jeunesse de 68 qui était descendue dans la rue, de fait, elle devenait féministe, enfin. Et en 74, c'est bizarre pour une organisation d'extrême gauche de ne pas l'être.
Mm-hmm. Et pourtant, en 74, vous êtes la seule femme candidate.
Oui,
et pourtant, on est post-68.
Oui, je suis la première, mais j'ai fait école après.
Ah oui. À cette époque, donc, quand vous vous déclarez, c'est la grève au Crédit Lyonnais, et puis vous manifestez, etc. Et vous me dites, j'ai tellement manifesté et crié qu'il a fallu que j'arrête de fumer. Vous conseillez ça comme technique ?
Oui, après une bonne grève, où vous prenez la parole tous les matins devant les grévistes et que vous devez les convaincre de continuer, les faire voter, décider, etc. Oui, j'avais plus de voix, voilà. Mais ça a été un bien pour un mal. Puisque... Voilà.
C'est un côté positif de la grève et de la lutte. On arrête de fumer éventuellement. Arlette Laguiller, ça se passait comment avec votre directeur au Crédit Lyonnais ? C'était quoi d'être le N plus 1 d'Arlette Laguiller ?
Vous savez, j'avais pas de relation particulière. Moi, je faisais partie des grévistes. C'est vrai que... Il y a un livre que je viens de lire sur le Crédit Lyonnais qui rapporte que le premier jour de la grève, Arlette Laguiller est rentrée dans le bureau du directeur, qui était d'ailleurs absent, c'était son adjoint, je crois, et entraînant avec elle, mais pas entraînant, puisque les gens me poussaient presque, tout le monde est rentré dans le bureau. Alors, dans ses souvenirs, il dit qu'il a reçu plein d'insultes. Bon, moi, je ne pense pas l'avoir insulté, mais on lui a dit vertement quand même ce qu'on pensait des conditions de travail dans l'entreprise. Et j'ai oublié la question.
Mais c'était quelle relation vous avez avec la direction de l'agence?
Conflit, quoi.
Parce qu'ils vous ont permis de continuer à travailler, à militer, toute votre carrière.
J'aurais bien voulu qu'ils me cherchent à me virer après la grève. Ça, ils auraient eu une deuxième grève sur les bras. Et à mon avis, non. Ils ont fait plutôt profil bas après. Ils nous ont quasiment payé toutes les heures de grève, 2 mois de grève quand même. Et l'ambiance a changé, surtout vis-à-vis des chefs qui rasaient un peu les murs. Tous ceux qui nous avaient bien embêtés avant la grève étaient doux comme des moutons. On n'imagine pas le bien qu'avait fait 1968 aux travailleurs et aux travailleuses et que du coup, on avait envie vraiment de changer les choses. Moi, je militais déjà depuis 1960, mais... C'est vraiment une grève qui m'a donné confiance dans la classe ouvrière, sur sa capacité à changer le monde. Parce que du jour au lendemain, j'ai vu des gens qui se parlaient pas, qui avaient leurs petits problèmes et qui d'un seul coup se trouvaient engagés tous ensemble pour la même chose. Et nous avons créé des comités de grève. Parce qu'il y avait des divisions entre les syndicats.
Sans blague.
Et dans un comité de grève, qu'on soit syndiqué, pas syndiqué, qu'on pense ceci ou cela, on a appris en quelque sorte à contrôler nous-mêmes notre grève. Et les syndicats pouvaient s'engueuler, l'un ne pas donner de consignes de grève, l'autre dire ceci ou cela. C'était les comités de grève qui décidaient en assemblée générale tous les jours. On reconduisait la grève. Et cette démocratie ouvrière, pour moi, c'était un petit peu un avant-goût des, peut-être un jour, du pouvoir des travailleurs. et de chasser la classe capitaliste, de créer une autre société.
Et la grève, ça crée du lien. On peut vous en parler à Radio France, hein. Régulièrement, on crée du lien, même sur les antennes. C'est rare, ça existe encore.
France Inter, Bistroscopie, Charline Vanhoenacker.
Arlette Laguiller, au Crédit Lyonnais, vous étiez trop à gauche pour la CGT. C'est comme ça que vous avez adhéré à Lutte Ouvrière?
Bah, j'étais trotskiste. Hein, et
c'est plus à gauche
PC,
que la CGT.
Calomniait les trotskistes, c'est normal. Les trotskistes, ils dénonçaient le stalinisme, ils dénonçaient ce qui se passait en URSS, et du coup, on était vraiment les ennemis à abattre. Quoi.
Ah, ouais.
Et la CGT étant à l'époque dirigée par le Parti communiste, ben voilà, on était persona non grata. Quoi. On ne pouvait pas rester à la CGT, ça a changé aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était ça. Quoi.
Pour nos jeunes auditorices, on va rappeler, c'est quoi le trotskisme, Arlette Laguiller?
Le trotskisme, c'est tout simplement les gens qui, malgré le stalinisme, n'ont pas abandonné la révolution et le communisme. Mm-hmm. Pour nous, ça reste un idéal, que ce soit les travailleurs qui dirigent la société, alors qu'ils produisent tout, produisent absolument tout. Je ne sais même pas si les bourgeois savent se faire à manger ou
ils se font livrer
faire
en Uber.
Leur ménage. Mais vraiment, les travailleurs, ils font, ça n'existerait pas. Et quand je dis les travailleurs, c'est aussi bien vous avec la radio que les gars d'Uber, que les femmes de ménage. Enfin, c'est tout ça, la classe ouvrière. Et le trotskisme, c'était dire, oui, nous, on continue à croire dans la lutte de classe et dans la force de la classe ouvrière. Si elle était unie, si elle s'unissait, eh bien, on pourrait changer le monde. Voilà, c'était ça.
Pourquoi ça a bien marché en France, le trotskisme ?
Je ne peux pas dire que ça ait bien marché, si vous voulez. Pour moi, ça ne veut rien dire, bien marché, parce qu'on est loin.
Moi, je suis belge, alors pour moi, ça a marché, vous voyez.
Ouais. Non, mais nous, Lutte Ouvrière, on est loin d'être encore le parti suffisamment implanté pour espérer un jour changer les choses,
oui, mais dans
si les travailleurs s'y mettent.
Quand vous étiez candidate à la présidentielle, il est arrivé que vous ayez jusqu'à, dans les sondages, jusqu'à 10% de...
Oui, en fait, j'ai fait que 5, pas tout à fait 6.
Vous voulez qu'on parle d'Anne Hidalgo, Benoît Hamon?
Ça, c'est... Oui, cela dit, j'ai fait 1% après. Hein.
Oui, il y avait un petit pourcent, c'est vrai. De toute façon, le but n'était pas de se faire élire.
Non.
Qui ou comment vous a fait rencontrer Trotsky ou les écrits aussi de Lénine, de Marx? Parce qu'on rappelle, vous grandissez au Lila, dans une pièce cuisine, il n'y a pas la place pour une bibliothèque.
Il y a des livres quand même,
livres,
parce que mon père était assez cultivé. Ah, oui.
Donc c'est lui, c'est par lui que...
C'est par lui, je piquais tous les livres. J'étais une grande liseuse, voilà. Ah, oui. Bon, on n'avait pas de livres de Marx ni de Lénine, mais on avait...
Et donc la rencontre avec le trotskisme.
Tous les bons romans français.
Ah, lesquels, par exemple? Les classiques.
Les Zola, les Madame Bovary, enfin plein de romans. Quoi. Mm-hmm. Mais voilà, donc j'avais lu tout ça. Mais le livre qui m'a vraiment... fondé, j'ai connu par hasard un militant de Lutte Ouvrière et il m'a fait lire des livres et en particulier le livre qui m'a vraiment convaincue, c'est La Révolution trahie de Léon Trotsky. Voilà, c'était mon livre parce que moi je me sentais communiste socialement dans mon quartier, contre la guerre d'Algérie, contre l'oppression coloniale, mais il y avait eu en 56 la révolution hongroise qui avait été décimée dans le sang par l'URSS, quoi, par les troupes venues d'autres régions. Et du coup, ça me posait un gros problème. Et avec la révolution trahie, j'ai compris ce qui se passait en URSS et pourquoi ça avait évolué comme ça. Et que ça n'aurait pas dû évoluer comme ça si, en 17, après la révolution russe, la révolution allemande n'avait pas été vaincue, la révolution autrichienne, enfin tout, la classe ouvrière s'est soulevée dans beaucoup de pays à la fin de la guerre, dans la lignée de la révolution russe. Et à ce moment-là, voilà, j'ai compris pourquoi ils étaient restés isolés et qu'à partir du moment où les soviets ont été désertés par les travailleurs, parce que le problème c'était de manger tout simplement, ça allait mal, il y avait de la famine, il y avait tout ça, et du coup les bureaucrates staliniens ont pris le pouvoir, quoi, voilà. Donc j'ai compris tout ça dans un seul livre,
On remercie le militant qui vous l'a donné.
Tout à fait. Qui, là, ce n'est plus de ce monde, mais oui, j'y pense souvent.
C'est vrai. Comment est-ce qu'on adhère à lutte ouvrière? J'ai l'impression que ça ne se fait pas en un clic. Est-ce qu'il y a un parcours du combattant un peu?
Non, alors...
Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts.
Bah, si vous me dites « je veux adhérer à lutte ouvrière », je vous dis « d'accord, je vous donne un rendez-vous, on va discuter de ce que vous mettez derrière
ouais. ».
Il ne faut pas que les gens y signent l'adhésion sans savoir où ils mettent les pieds.
Écoutez, je vais réfléchir.
Et on est, alors là, c'est ce qu'on nous reproche, mais nous, on y tient. On cultive nos militants. On veut qu'ils connaissent l'histoire. Pas seulement l'histoire de France, mais l'histoire de tous les pays.
Il y a un test à l'heure pour rentrer à LO. Il y a un test ?
Il n'y a pas de test.
Non ? Il n'y a pas un test de culture ?
La volonté, quand on vote une résolution à notre congrès, que tous les militants ils aient un minimum de culture commune. Autrement, ça n'a pas de sens.
Ouais.
On ne peut pas définir une ligne si on n'a pas un minimum...
De socle de idéologique socle aussi.
Idéologique commun, c'est tout. Alors, on nous en fait grief, lutte ouvrière, ils font lire leurs militants. Ben oui, on... Et je vais vous dire, ça a toujours existé dans la classe ouvrière, les écoles du parti pour former les militants. Ça existait même avant que les partis naissent, ne serait-ce que dans les mutuelles, tout un tas de choses. Quand vous lisez un certain nombre de romans sur le 19e siècle, vous apercevez que toujours les militants qui sont préoccupés de la classe ouvrière, ils ont essayé de la cultiver, cette classe ouvrière, pour qu'elle soit capable, justement, de répondre au patronat. Et ça, c'est une vieille tradition, on compte pas y renoncer. Surtout dans ces périodes troublées où on nous fait prendre des vessies pour des lanternes et où on nous raconte n'importe quoi. Ouais.
Donc il faut avoir le socle idéologique. Donc c'est une légende qu'il faut vous baiser les pieds pour rentrer à Hello.
Je sais pas d'où ça sort.
Non, nulle part, je viens de l'inventer. Vous avez un nom de code alors, quand vous arrivez à l'étoile
ouais,
brillière
ouais.
C'était quoi le nom
vous
de code?
Vous savez, au sortir de la libération, on a eu des camarades assassinés par des staliniens, trotskistes assassinés. Il y en a même eu pendant la résistance. Donc on se protégeait. Et moi j'avais un pseudonyme, j'ai toujours, c'est Bizet. Voilà.
Bizet, ça vient d'où?
Peut-être un peu pour la musique.
Ah oui.
C'est pas des noms de code, on appelle ça des pseudonymes.
C'est des pseudonymes, ah oui.
Et vous savez, si demain... Parce que moi, je suis très inquiète sur la période internationale. Et si demain, la guerre revenait, la guerre mondiale, je veux dire, elle est près de nous. Hein. On peut dormir sur ses oreilles en pensant que c'est pas grave ce qui se passe en Israël, en Palestine, que c'est pas grave ce qui se passe en Ukraine, ou ce qui se passe au Yémen, ou ce qui se passe partout où il y a
Syrie,
des conflits. Mais on est peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas devin, hein, on est peut-être à la veille de la Troisième Guerre mondiale. En tout cas, on la craint. Et de ce point de vue-là, bah, ce n'est pas dit que demain, si... Vous savez, on sait, hein, en 40, le PC a été interdit, enfin, dès 38, les organisations trotskistes ont tous été interdites. Heureusement que les camarades ont essayé de survivre avec des pseudonymes, je ne sais pas comment vous faites. Et demain, bah, si la guerre revient... Et je pense qu'on n'est pas les seuls à la craindre. Bah, ça nous servira peut-être d'avoir des pseudonymes.
On va en chercher tout de suite, Arlette. Parce que dans le bunker, il serait trop tard pour trouver notre petit nom de code. Il n'y avait pas de poste de radio chez vos parents, pas de platine disque, je pense.
C'est-à-dire qu'on avait un poste de radio de temps en temps, quand on le sortait du monde piété. Vous savez, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, je crois. Les locaux existent toujours.
Ouais. L'équivalent aujourd'hui, c'est...
Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais quand dans une famille
ouvrière,
vous n'aviez pas d'argent, vous portiez quelque chose et on vous donnait un petit peu d'argent, et après vous venez le récupérer plus tard et en remboursant.
Et vous, quand vous
De temps en temps, j'avais très rarement le poste de radio, il était souvent au monde piété.
Mais quand vous allez au monde piété, c'était pour avoir un peu de radio.
Enfin, vous savez, j'étais enfant, je me rappelle que de ça, peut-être que mes parents avaient donné d'autres choses, je ne sais pas. Malheureusement, j'ai peur qu'il y ait pas mal de gens aujourd'hui qui se retrouvent dans cette situation.
Bien sûr. Et donc, la musique, vous la découvrez vraiment en live, un peu dans les cafés, les clubs de jazz là.
Oui, en fait, oui. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'ai aimé le jazz, parce que je ne connaissais pas trop la musique classique, mais j'ai tout de suite aimé ça, et... Bah, c'est comme souvent, c'est des jeunes de mon âge et quelques jeunes camarades qui connaissaient un peu mieux que moi, qui m'ont entraîné. Voilà.
Et aujourd'hui, vous êtes très très pointu en jazz.
très pointu, il ne faut pas exagérer.
Si, il y a une émission sur France Musique d'ailleurs, qui est connue dans tout Radio France, pour votre précision sur le jazz. Ah, si, vous la retrouverez facilement, je pense, sur évidemment le site de Radio France. Allez, on écoute Norah Jones avec ce nouveau titre.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis attablée au bistrot avec Arlette Laguiller, qui est avec nous, la première femme à s'être présentée à la présidentielle, leader de lutte ouvrière. Arlette Laguiller, en 1974, vous avez obtenu plus de voix que Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pourquoi le monde ouvrier est de plus en plus tenté par le vote d'extrême droite, semble-t-il?
Alors, je dirais que les ouvriers, les travailleurs en général, sont plus tentés par l'abstention, d'ailleurs, que par le vote FN, en réalité. Vous savez, on connaît tellement de villes, de petites villes, de villages où il n'y a pas un seul étranger et où ça vote Front National à je ne sais pas combien de pourcents. Donc, en réalité, dire que c'est les ouvriers, Marine Le Pen a fait beaucoup de voix dans ce qu'on appelle les classes moyennes, au moins au niveau des sondages,
oui,
semble-t-il.
Il n'y a pas que les ouvriers, alors, mais il y a quelque chose de significatif.
Non, mais je vous dis, moi, les ouvriers, le drame pour nous, c'est qu'ils s'abstiennent de plus en plus, qu'ils refusent de voter. C'est ça, la grosse part du vote ouvrier, c'est l'abstention en réalité. Et ça, oui, c'est un travail pour nous. D'ailleurs, si on se présente à toutes les élections, bah, c'est qu'il y ait pour moi cette possibilité, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout ce qu'on dit, mais de dire au moins déterminez-vous en tant que classe sociale qui est exploitée et qui en a marre de ça, justement. Bon, voilà, on se présente pour ça, pour offrir cette possibilité.
Oui, parce que
aussi pour d'autres, bien sûr, pour diffuser nos idées, mais aussi pour ça. Mais moi, ça m'énerve d'entendre que, alors qu'on connaît plein de quartiers de Paris riches et tout, il y a un vote d'extrême droite extrêmement important. Parce qu'il n'y a pas que Le Pen, il y a eu Zemmour, il y a une droite qui est quasiment, qui défend les mêmes thèses que l'extrême droite. Et c'est plutôt dans les beaux quartiers qu'on vote pour ces gens-là. Ouais. Donc, faut arrêter avec le vote ouvrier et Le Pen.
Ah non, mais alors, je ne disais pas qu'il y avait une corrélation et que c'était à cause d'eux, etc.
C'est ce que beaucoup disent, ouais.
Ouais, mais c'est-à-dire que dans la classe ouvrière, il y en a qui sont quand même tentés, qui ont basculé
oui,
de l'un à l'autre.
Il y en a, mais pas plus que dans le 16e arrondissement. Ouais. Hein.
Parce que les emplois à l'usine, ils sont davantage menacés par les robots et l'intelligence artificielle que par les immigrés, non ?
Ah, oui, alors, par les robots, on a beaucoup dit là-dessus. Pour l'instant, c'est pas tellement dans les usines qu'ils sont menacés par les robots. Ils sont menacés par le patronat qui décide de changer sa façon de produire et qui oblige les ouvriers à travailler le samedi de façon obligatoire, à faire des heures supplémentaires de façon obligatoire. Parce que, robots ou pas, c'est ça l'exploitation aujourd'hui dans les usines. Et pas seulement dans les usines automobiles, dans les usines d'armement, dans les grandes firmes pharmaceutiques, etc. Et donc, oui, la classe ouvrière, elle a du ressentiment. Elle voit qu'elle a eu la gauche, elle a eu la droite, elle a eu Macron, ni gauche ni droite, paraît-il, mais enfin plutôt droite quand même. Et il n'y a rien qui change pour elle, quoi. Alors, c'est le coup classique où il m'attendait, il va y avoir quelqu'un d'extraordinaire qui va tout régler, celle qu'on n'a pas essayée. Voilà. Ça, le seul argument, c'est ça, celle qu'on n'a pas essayée. Eh ben non, elle sera comme les autres politiciens, Marine Le Pen ou Bardella, ils seront comme les autres politiciens, c'est-à-dire qu'ils seront du côté de la classe capitaliste et ils s'attaqueront aux droits des travailleurs, comme l'a fait la gauche, comme le fait aujourd'hui Macron, en réduisant les allocations chômage, y compris pour les plus âgés des travailleurs, en faisant qu'il n'y ait pas assez de logements et que les gens aujourd'hui ne savent plus où se loger, qu'il y a des milliers de gens qui sont sans abri, y compris des enfants. Vous voyez, c'est ça aussi la situation aujourd'hui du monde du travail.
Ça ressemblerait à quoi, le gouvernement des travailleurs ?
Peut-être un peu comme dans une grève, c'est-à-dire à de grandes assemblées générales où on discuterait, où chacun aurait la parole et dirait son avis, son point de vue sur telle ou telle chose qu'il faut régler.
Comme une convention citoyenne ?
Convention citoyenne, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Une assemblée citoyenne, quoi.
Moi, je dirais pas une, je dirais une assemblée de travailleuses et de travailleurs. Ouais, ouais. Voilà. Parce que citoyens, tous les habitants du même pays sont citoyens. Ah, ça ouais.
Il y a un actionnaire.
Il y a des classes sociales.
Il y a un actionnaire qui pourrait se glisser. Et
Non, c'est pas ça. Il y a vraiment, il y a vraiment des classes sociales. Regardez la nouvelle ministre.
Ah, alors parce que c'est difficile de trouver leur nom. Hein. Ils changent beaucoup.
Oui, mais de l'éducation nationale.
Amélie Oudéa-Castéra.
Oui, c'est ça. Ben, regardez, c'est vraiment le type même de la grande bourgeoise. Elle gagnait 500 000 euros par an pour diriger la Fédération du tennis français. Et elle trouvait qu'elle n'était pas assez payée vu le nombre d'heures qu'elle y gagnait. Avant de travailler chez AXA, elle gagnait beaucoup plus encore. Et c'est ces gens-là qui se permettent là, d'attaquer les enseignants comme elle le fait. C'est vraiment une grande bourgeoisie. On ne parle même pas de son mari parce que lui, c'est pareil. Je ne sais plus où il est maintenant, mais il était à la tête de la Société Générale à une époque. Et ce milieu-là, mais ils n'imaginent même pas ce que c'est la vie d'un travailleur. Ça les dépasse, quoi. Hein, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs et ils dirigent la société.
Mm-hmm. Mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un prof du service public, peut-être.
En tout cas...
Déjà.
En tout cas, apparemment, elle a préféré mettre ses enfants ailleurs, quoi. Ouais, ouais. En mentant, semble-t-il, d'ailleurs, sur le fait que la maîtresse n'était pas remplacée. Et vous voyez, nous, la classe ouvrière, on est un monde de ces gens-là, vraiment. Ils ne peuvent pas comprendre la situation du pays, ces gens-là. Ils vivent vraiment dans leur monde, avec leurs préoccupations à eux.
Donc, dans votre gouvernement de travailleuses et travailleurs, cette grande assemblée, mais de travailleuses et travailleurs, il y aurait du compromis alors, Arlette Laguiller ?
Vous savez, dans une grève, personne ne pense pareil. Hein. Personne ne vote pareil. C'est pas vrai. Dans la classe ouvrière, il y a des gens qui votent à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Mais dans un combat, ils se retrouvent tous ensemble. Et ça change. Ça change les choses. Ouais. Puis on apprend la vraie démocratie.
Mais vous
on laisse les gens s'exprimer. Ouais. Et puis on décide, on vote. Mais dans notre classe.
Mais vous, vous n'avez pas fait beaucoup de compromis, j'ai l'impression.
Des compromis avec la bourgeoisie, non,
non
jamais.
Non, pas avec la bourgeoisie, mais même déjà avec la LCR.
Si,
il y a des travailleurs.
On en a fait, parce que là, j'ai souvenir de campagne électorale où on était d'accord sur pas grand-chose.
C'est pas vrai. C'est arrivé, ça.
Et où chaque tract devait nécessiter beaucoup d'heures de travail pour se mettre d'accord. On a des souvenirs, oui.
En 2002, vous n'avez pas appelé à voter Chirac pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen.
Et je le regrette pas, oui.
Vous le regrettez pas, non?
Non.
Vous avez...
non, parce que...
vous aviez senti que cette histoire de barrage, ça sentait le roussi, ou quoi?
Écoutez, on nous balançait des faux sondages, mais on avait les calculs que Le Pen, il pouvait pas l'emporter en réalité. Alors maintenant, des gens disent « Ah ben, vous aviez raison, finalement, à l'époque, vous avez eu raison. » Mais moi, il était pas... Enfin, personnellement, et avec la majorité de mes camarades, donc on a décidé de pas appeler. On ne voulait pas voter pour un homme de droite, voilà. On pensait pas que Chirac nous protégerait de la montée des idées d'extrême droite. Ça l'a prouvé, d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas cessé de monter, sous Chirac et sous les autres. Si les travailleurs ne se prennent pas en main... Peut-être que demain, on aura Le Pen au pouvoir. C'est possible. C'est possible. Et la seule force qui peut s'y opposer, c'est la force des travailleurs.
Ouais. Dites donc, petite cachotière.
Ah, ça y est, qu'est-ce qu'elle va me sortir?
Vous êtes candidate aux européennes. Je vous ai trouvé caché tout en bas de la liste.
Oui, bah écoutez, c'est mes camarades qui l'ont souhaité. Parce qu'ils disent, y a plein de gens qui nous demandent, mais que devient Arlette? On la voit plus à la télé, etc. Donc, ils ont dit, ça serait bien que tu y sois. Bon, j'y serai, mais je suis bien sûr pas en position élue, vous en doutez bien.
Ils disaient quoi du réchauffement climatique, Trotsky?
On dit ce que le GIEC en dit. Qu'est-ce que vous voulez, nous, on n'est pas des scientifiques. On est d'accord, car on le ressent. Ou les catastrophes aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais ou ailleurs, ou à La Réunion. On voit qu'il y a une incidence du réchauffement climatique sur le climat, c'est sûr. On ne nie pas ça. Maintenant, vous comprenez, si on veut changer la société, y compris dans ce domaine, là aussi, il faut faire la révolution. Il faut enlever aux grandes entreprises le droit qu'elles ont de polluer, de fabriquer n'importe quoi et n'importe comment. Bon, et ça, c'est pas un vote, je vous dis, c'est vraiment une révolution qu'il faut.
Arlette Laguiller, comment est-ce qu'on fait pour tenir ses convictions pendant 50 ans ? N'hésitez pas à donner des petits conseils, parce qu'il y a peut-être des gens au pouvoir qui nous écoutent.
Vous savez, ça s'alimente forcément tous les jours. Je dirais que c'est même de mon envie de changer le monde, c'est presque de pire en pire, enfin d'une certaine façon, parce que là c'est pareil. J'ai regardé une émission sur les enfants qui dorment dans la rue, sur les femmes qui dorment dans la rue, les femmes enceintes qui accouchent dans la rue, en ce moment, dans une ville comme Paris. Et je me dis, c'est pas possible, enfin. Cette société, elle peut pas continuer à tourner comme ça. C'est pas possible. Donc il y a bien un moment où, enfin moi je l'espère, où le monde du travail, la classe ouvrière en général, dans son acception la plus large, va bouger, va se révolter, va plus tolérer un certain nombre de choses. Bon, ben ça, je le pense depuis que j'ai 20 ans, vous voyez, et je le pense encore aujourd'hui. Oui.
Vous pensez que cette année et cette époque, elles ont encore des promesses ? Si on veut paraphraser Lénine, que faire ?
Que faire ? Ben, construire un parti révolutionnaire qui grandisse et qui soit capable, si demain la classe ouvrière a envie de changer les choses, eh bien on puisse être avec eux pour le faire. Voilà, c'est tout, c'est notre seul espoir, hein. Il n'y en a pas d'autre.
Mais vous restez optimiste ?
Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Pas facile tous les jours, vu la situation, mais ouais.
On finirait comme dans vos meetings, Arlette Laguiller ? On finit en chantant l'International ?
Ah ben, si vous voulez. Alors, debout les damnés de la terre, debout les forces de la faim, la raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé. Faisons table rase, foule esclave, debout, debout, le monde va changer de bas. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Ça va ?
Parfait. Merci Arlette Laguiller.
Merci à vous.
Merci. Et vive la révolution.
Voilà, c'est bien.
C'était Bistroscopie, une émission où Ophélie Vivier est la chargée de programme, François Audouin le réalisateur et Djoubaka le programmateur musical. Merci à Thomas Robin à la technique aujourd'hui et à samedi prochain, 19h20.